16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Avec à mes côtés un garçon très taquin avec qui je vois souvent rouge. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Si vous voyez rouge, alors vous êtes comme nos personnages du jour. À une différence près avec vous, ce sont des femmes. Et une deuxième différence peut-être, elles sont révolutionnaires.
Quelle horreur.
Non Stéphane, vous allez voir, tout va bien se passer. Elle voit souvent rouge, avec elle ça bouge. C'est le point commun de nos trois dames du jour.
Oui, à commencer par celle qu'on a surnommée Rosa la Rose Rouge. Rosa Luxembourg. Une militante née au moment de la Commune de Paris, et ce n'est peut-être pas un hasard, vous verrez. Puis je vous raconte celle qui, bien avant elle, a aussi fait sa révolution, même si certains ont tenté de la faire taire et d'effacer son nom, l'Amazone Rouge, Théroigne de Méricourt. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une comédienne plus proche de nous, à tous les sens du terme, mais rouge aussi.
Oui, votre consoeur, une actrice éminemment populaire, notamment pour son rôle dans Capitaine Marlowe sur France 2, et une femme qui a parfois aussi ses coups de sang, je vous brosserai le portrait de la très rouge Corinne Maziero. Avec nous également, une femme exceptionnelle, qui voit rouge très souvent, surtout lorsqu'un serveur débutant a le malheur de lui apporter ses quenelles tièdes et non pas cuites à cœur, car qu'on se le dise.
J'adore les quenelles, c'est un de mes plats préférés. Je me damnerais pour des quenelles, je peux même en manger des dégueulasses tellement j'aime ça.
Entre deux quenelles, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes semences. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach.
Ah, vous êtes gonflée. Étonnez-vous que je vois rouge de temps en temps avec une équipe pareille. Alors, moi je vais vous parler d'une dame qui est morte il y a 10 ans jour pour jour, le 22 novembre 2011, enfin à peu près. Elle mourait à 85 ans dans une petite ville du Wisconsin aux États-Unis. Svetlana Alilouyeva, ça vous dit quelque chose? Fille unique de
Staline.
Exactement. Ah, bravo, il y en a au moins
c'est
un
fou.
Qui suit.
Il y en a
suit.
Au moins
oui.
Qui sait lire ses fiches.
Oui. Non, c'était une surprise. Elle avait passé des années entre la Russie et différentes villes américaines. Elle avait la bougeotte, cette femme. Et idem sur le plan sentimental, sa vie affective agitée ressemble en tout point à 4 mariages et un enterrement. Vous avez vu ce film il y a des
bien
années.
Sûr.
Voilà.
Oh, on va rigoler,
ça, c'est Svetlana Alilouyeva. Je vais vous raconter ça.
Avec nous également, David oui. Castellopez, qui remonte aux origines d'une invention, oui. d'une mode.
Enfin... Cet après-midi, je vous laisse l'introduire, parce que je ne sais pas ce qui est écrit sur la fiche.
Moi
là,
non plus. Mais oui, mais c'est un mème. Vous n'êtes pas très mème. Est-ce que vous vous souvenez...
Ce qu'est un mème, déjà.
Un mème, c'est ces petites choses qui sont postées sur Internet de façon très humble, sans aucune intention d'avoir du succès, et qui deviennent des phénomènes culturels un peu incompréhensibles, mais en même temps un petit peu marrants.
Un peu comme votre chaton là, de l'espace.
Exactement comme mon chaton de l'espace, le Nian 4, comme je possède des thunes, on pourrait dire.
Ah oui,
et
oui,
ça, c'est un mème. C'est complètement un mème.
Non, parce que quand vous l'avez fait, tu m'avais dit, j'espère bien devenir une star avec ça. Absolument. Tu me l'avais dit, donc c'est pas vraiment
le
un
mème. Le mensonge absolu. Et là, c'est un des premiers mèmes de l'histoire qui est Charlie Bit Me. Vous vous souvenez pas de Charlie Bit Me?
Je me souviens de Charlie Bit Me.
Charlie Bit Me.
Tu nous assommes avec ton accent.
Deux petits garçons, bébés britanniques, qui se mordent l'un l'autre et qui est une vidéo qui a été vue presque 1 milliard de fois sur YouTube. C'est un des mèmes les plus célèbres de l'histoire de l'humanité et je vous en raconterai l'histoire et je vous raconterai ce que c'est aussi puisque visiblement
oui, c'était une mise en scène des parents.
Ce
ou
n'était
c'est...
pas
non,
une mise en scène des parents, c'était spontané. Un enfant de 3 ans et un enfant.
Et avec Olivier Poul, c'est bien on remonte aux origines ou d'un plat ou d'une recette ou d'un mets ou
surtout
d'un produit.
On revient sur terre après cette.
Oui, oui, oui. Et là, alors là, on est dans le schnorr avec.
Oui, mais on en cultive partout maintenant, ah oui. de la betterave. Et surtout, j'essaierai de vous réhabiliter ce produit rouge.
Ah, voilà. Mais lui, il fait toujours un effort, Olivier, pour être en lien avec l'émission.
Produit rouge. Ah oui, c'est vrai que ça tâche. Quand vous épluchez les betteraves.
Et après, si vous allez sur les vêtements, c'est très difficile à ravoir.
Ça va aussi dans le pipi, non, un petit peu.
Pardon, on va arrêter 5 minutes là-dessus.
Il n'y a pas comme non. avec les asperges, par
quand
exemple.
Si, quand j'étais petit, je me souviens que. Enfin bon, je.
Non, David, si vous avez uriné rouge, c'est un autre problème. Il faut consulter rapidement. Ce ne sont pas les betteraves. Ça peut être un problème plus grave. Donc je vous conseille d'aller consulter rapidement. D'accord. Voilà, cette émission est bien partie. Enfin, on dit souvent amitié. Mais quoi de mieux pour entretenir cette amitié que de temps en temps se foutre un peu sur la gueule? On a appelé ça Burn to be alive parce que chaque après-midi, au moment du quiz, Stéphane Bern est en mode survie. Ce sera vers 5h moins le quart, notre célèbre quiz. Mais d'abord, découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle est rouge des pieds à la tête.
Régine, évidemment.
Non, pas Régine, Stéphane. Une révolutionnaire, mais pas que de la nuit, du jour aussi. Une militante pressée qui n'a pas toujours eu bonne presse, qu'on a fini par surnommer Rosa la Rose Rouge. Stéphane Bern nous raconte Rosa Luxembourg.
Sur la pierre de mon tombeau, on ne lira que 2 syllabes. Tzvi, tzvi. C'est le chant des mésanges charbonnières. Figurez-vous que dans cette tsvi-tsvi, il y a depuis quelques jours une minuscule note de poitrine. Et savez-vous ce que cela signifie ? C'est le premier léger mouvement du printemps qui arrive. Malgré la neige, le froid et la solitude, nous croyons, les mésanges et moi, au printemps à venir. Cette femme qui transmet depuis les murs de sa prison son espoir en des lendemains qui chantent, c'est Rosa Luxembourg. En cet hiver 1917, il faut pourtant lutter pour rester optimiste. Depuis près de 3 ans, l'Europe s'enlise dans une guerre dont l'horreur n'a pas de précédent. Rosa Luxembourg a 46 ans et déjà un long passé militant qui l'a menée plusieurs fois derrière les barreaux. Rosa est née le 5 mars 1871, quelques jours à peine avant le déclenchement de la Commune de Paris, dont elle partage bien des idéaux. Elle grandit pourtant loin de Paris, à Zamość, dans la partie polonaise de l'Empire russe. Rapidement, les parents de Rosa, des bourgeois juifs assimilés et cultivés, déménagent à Varsovie. Une chance pour la jeune fille, qui peut intégrer là-bas au début des années 1880 un lycée de haut niveau. Elle fait pourtant à cette occasion une cruelle première rencontre avec l'injustice. Les juifs doivent se plier à un système de quotas et à des exigences plus fortes que les autres. Élève brillante, elle relève le défi. Elle termine ses études avec les honneurs et une note maximale dans toutes les matières. Rosa parle le russe, le polonais, l'allemand, l'anglais et le français. Mais à cause de ses idées, elle se voit refuser la médaille d'or qui devait couronner ses succès scolaires. À 16 ans, elle adhère au parti clandestin Prolétariat, dont le chef vient d'être pendu par la police secrète du tsar. 2 ans plus tard, Rosa part pour la Suisse afin de rejoindre la seule université germanophone acceptant les femmes. L'histoire, trop belle pour être vraie, raconte qu'elle passe la frontière camouflée dans une charrette de foin, aidée par un prêtre à qui elle raconte vouloir se convertir en cachette de ses parents. On ne peut y croire. Arrivée à Zurich, en tout cas, Rosa rencontre son premier amour, Léo Jogich, issu de la bourgeoisie juive de Lituanie et membre d'un groupe d'action révolutionnaire. Il a pris l'habitude de dormir à même le sol pour s'habituer à la prison qu'il a déjà connue par 2 fois. Pour financer ses études, Rosa Luxembourg travaille comme journaliste, notamment à Paris, où elle fréquente Jean Jaurès. Sa plume, alerte et épurée des lourdeurs de la presse militante, fait mouche. À 26 ans, l'étudiante soutient sa thèse et devient docteur en économie. Immédiatement après, elle se marie. Pas avec Léo, non, mais avec le fils d'un couple d'amis qui a l'avantage de posséder la nationalité prussienne. Ce mariage blanc permet à Rosa d'entrer en Allemagne et d'y militer pleinement, sans risquer l'expulsion. À cette époque, Berlin est alors la capitale de la pensée socialiste, au cœur d'un pays très capitaliste, mais où le mouvement ouvrier est déjà puissant et bien organisé. Dès son arrivée en 1898, Rosa adhère au Parti social-démocrate, le SPD, qui proclame sa vocation révolutionnaire. La militante commence sa carrière d'oratrice auprès des ouvriers polonais de Haute-Silésie pendant une campagne électorale. À la tribune, sa tête dépasse à peine. Rosa est toute petite, alors on l'aide à se rehausser et son talent agit. « Je monte à la tribune aussi tranquillement que si je le faisais depuis au moins 20 ans », écrit-elle. « Je n'ai pas la moindre frousse ». Son aura est telle que l'on parle déjà de « luxembourgiste » pour désigner ses partisans. En 1903, Rosa Luxembourg est emprisonnée pour la première fois. Une peine de 3 mois pour outrage au Kaiser Guillaume II. Ça ne l'arrête pas. La révolution russe de 1905 la voit se précipiter en Pologne, qui connaît aussi un mouvement insurrectionnel. Elle a 35 ans. Ce moment est fondateur dans sa pensée. Elle développe le concept de spontanéité révolutionnaire des masses. L'idée que le mouvement doit partir du peuple et pas d'un parti politique organisé. Cette critique de la bureaucratie n'est pas du goût de tout le monde, en Allemagne comme en Russie, auprès de Lénine. En Pologne, elle est de nouveau arrêtée en même temps que Léo, alors qu'ils circulent tous les deux sous une fausse identité. Emprisonnée, elle entame une grève de la faim. Les exécutions sommaires sont nombreuses. On vient un jour la chercher, on lui noue un bandeau sur les yeux. Mais Rosa échappe à la mort, elle est libérée sous caution. Pendant ce temps, les tensions s'accentuent sur le vieux continent autour notamment de la question coloniale. À l'encontre de ceux qui vantent le progrès et s'enorgueillissent de la paix préservée depuis des décennies, Rosa pressent que ce monde court à la catastrophe. En 1914, alors que la guerre éclate, elle reste farouchement pacifiste. Mais la désillusion est terrible. L'international s'effondre. En France, Jean Jaurès est assassiné, les socialistes entrent dans l'Union sacrée qui scelle le rapprochement de toutes les familles politiques. En Allemagne, les députés sociaux-démocrates votent les crédits de guerre. Seule une infime partie de la classe ouvrière résiste à l'euphorie patriotique. Rosa en est tellement affectée qu'elle pense au suicide. Elle est exclue du SPD, en même temps que le fils du fondateur du parti, le député Karl Liebknecht. Ensemble, ils fondent la ligne spartakiste en référence à Spartacus, l'esclave révolté. Trois fois pendant la guerre, Rosa est enfermée pour ses prises de position contre le conflit. La révolution russe de 1917 et la fin de la guerre l'année suivante font pourtant naître un nouvel espoir dans le cœur de Rosa. Le rêve d'un monde nouveau est permis, elle va se saisir de l'occasion au mépris du danger. En novembre 1918, Rosa sort de prison à la faveur d'une amnistie générale. L'Allemagne a perdu la guerre, l'Empire des faits s'est effondré. C'est le moment idéal pour tenter d'importer la révolution en Allemagne. En décembre, Rosa fonde, dans le prolongement de son mouvement spartakiste, le Parti communiste allemand. Mais à Berlin, une grande confusion règne. La République est proclamée à la fois par les sociaux-démocrates et par les communistes. Alors que les seconds peinent à se coordonner, les premiers bénéficient de l'appui de l'état-major dans un seul but, éviter à tout prix la révolution. Une tentative d'insurrection ouvrière est sévèrement réprimée. Rosa, qui l'a soutenue dans ses articles, est arrêtée le 15 janvier 1919 et brutalement interrogée par des militaires. Dans le hall de l'hôtel où elle a été emmenée, des corps francs chargés par le gouvernement de rétablir l'ordre la brutalisent. Ils assomment Rosa d'un coup de crosse de fusil et la jettent dans une voiture. À bord, alors qu'elle est encore inconsciente, ils l'achèvent d'une balle dans la tête avant de larguer son corps dans le Landwehrkanal. Son compagnon de lutte, Karl Liebknecht, est assassinée le même jour. Rosa Luxembourg est une figure politique importante en Allemagne. Alors, les militaires tentent dans un premier temps de dissimuler, sans vraiment de succès, les conditions de son décès. Léo, son premier amour, qui a participé à la création de la Ligue spartakiste et du Parti communiste, enquête sur sa mort. Il est à son tour tué, deux mois après Rosa. Les militaires responsables de sa mort sont finalement jugés et légèrement condamnés. Ils seront plus tard indemnisés par le régime nazi. En tuant Rosa, ils n'ont pourtant jamais réussi à faire disparaître son souvenir. Au contraire, la militante décrite à tort comme sanglante par ses détracteurs, elle qui s'est toujours opposée à la terreur soviétique, est devenue Rosa la Rose Rouge, figure martyre de la cause révolutionnaire. En mai 1968, lors des manifestations allemandes contre la guerre au Vietnam, son visage trônait encore sur les pancartes des étudiants, à côté de celui d'un certain Che Guevara.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Rosa Luxembourg, nous sommes justement avec celui qui édite ses écrits, Éric Seveau. Bonjour Éric.
Bonjour.
Bonjour Éric Seveau, vous êtes éditeur et membre du collectif d'édition Smolny qui a entrepris depuis 2009 de publier l'œuvre complète de Rosa Luxembourg. C'est un travail colossal puisque vous expliquez que sa biographie compte quelque 850 entrées. Quels sont les différents textes qu'elle a laissés ?
Eh bien, il faut d'abord rappeler peut-être le cadre collectif et militant dans lequel s'inscrit la réflexion et la production d'écrits de Rosa Luxembourg. Et ce qui fait qu'on va trouver différentes formes à ses écrits, d'innombrables articles bien sûr, des brochures, des discours. Aussi ses notes de cours, car elle fut enseignante de 1907 à 1913 à l'école centrale du Parti social-démocrate d'Allemagne, à Berlin. Alors évidemment, ça fait un nombre d'entrées, comme vous l'avez dit, assez considérable. Oui. On en compte en fait maintenant plus de 1000 avec les derniers volumes qui sont parus en Allemagne ces dernières années. Évidemment, des textes de taille très diverse. Une extrémité du spectre, vous allez avoir un compte-rendu de discours qui fera une demi-page et à l'autre bout, les 600 pages bien tassées de son maître ouvrage qu'est l'accumulation du capital qui paraît en 1913. Donc c'est un corpus assez imposant dont on essaye de rendre compte dans l'édition complète Agon Smolny sous une forme abordable, c'est-à-dire de faire de chaque volume une entrée thématique, même s'il y a évidemment des connexions transversales nombreuses. Et c'est une forme qui s'est avérée assez dynamique pour mettre en perspective les différentes facettes de la pensée politique de Rosa Luxembourg.
Mais ça permet surtout de la retrouver peut-être dans sa complexité. On a peut-être une image un peu simplifiée de Rosa Luxembourg. Est-ce qu'aujourd'hui, ces analyses qu'on redécouvre trouvent un écho avec ce qu'on vit aujourd'hui ?
Oui, alors je pense que c'est essentiel effectivement de redécouvrir ses écrits parce qu'il y a vraiment une façon spécifique de Luxembourg de se saisir de tout problème qui reste pertinent parce qu'elle a une capacité à insérer tout événement Alors, d'un simple fait divers à une analyse générale du mode de production capitaliste, encore une fois, le spectre est très large, mais elle resitue toujours ça dans un cadre global qui fait sens dans une perspective révolutionnaire. Et ça, ça reste une motivation essentielle pour lire Rosa Luxembourg, parce que je crois, je dirais, qu'on a souvent perdu cette capacité. Et si on allie ça à une intégrité exemplaire, une intégrité politique et presque morale, je dirais, de son combat, son œuvre, pourtant très éclatée, hein, on a vu, là, on a cité les différentes formes qu'elle avait, dégage finalement une certaine unité, une forme d'éthique révolutionnaire du prolétariat. Donc, lire Luxembourg aujourd'hui, c'est un peu se réchauffer à cette flamme dont votre présentation donnait un peu une idée, une flamme toujours vive, hein, faite alors d'unité entre un goût très prononcé pour la théorie révolutionnaire et l'analyse économique notamment, et l'expression d'une volonté forte, mais libre, ouverte, généreuse, d'action, de transformation. Si on devait évoquer quelque chose quand même parmi les nombreux échos aujourd'hui, mais son analyse économique par exemple, qui approfondit l'idée que l'accumulation du capital reste le moteur essentiel pour comprendre la dynamique du capitalisme dans tous ses aspects. C'est-à-dire un système finalement incroyablement dynamique, mais un système pétri de contradictions insurmontables qui le font passer de crise en crise, de guerre en guerre, et qui le pousse aussi dans une extension sans fin, une extension géographique, hein, il essaye de se propager à l'ensemble de la planète, mais aussi qualitative, en absorbant, je dirais, dans son orbe, dans les rapports sociaux capitalistes, tous les aspects de notre vie matérielle ou intellectuelle. C'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, par exemple, en se saisissant des biens communs, le marché de l'eau, je dirais le marché de l'air au sens où on va marchandiser aussi la capacité à lutter contre le réchauffement climatique, etc. etc.
Éric Stéphane le disait, Rosa Luxembourg a commencé à militer extrêmement jeune. Qu'est-ce qui est aux origines de son engagement politique ?
On pourrait dire les éléments qui ont été évoqués dans la présentation. Elle est dans une situation où elle est minoritaire, en quelque sorte, et elle subit une oppression sous trois formes, hein, comme polonaise au sein de l'Empire russe, vu que la Pologne a connu un éclatement en trois parties, hein, avec Allemagne, Russie et Autriche-Hongrie. Elle est juive et c'est une femme, ce qui limite aussi les capacités, par exemple, d'études ou d'engagement à l'époque. Et elle a une sensibilité qui, sur chacun de ces aspects, va faire qu'elle se révolte, on pourrait dire, mais c'est dans un contexte historique particulier et elle va très rapidement développer une formation marxiste. Ensuite, elle va le développer en Allemagne en devenant docteur en économie. Et très vite, hein, toujours se faire dans un cadre militant. C'est ça qui est caractéristique de Rosa Luxembourg. C'est à la fois un goût pour l'approfondissement théorique et un engagement personnel, une volonté politique de s'engager très forte.
Je l'ai raconté dans mon récit, Éric Sevaux, Rosa Luxembourg est une internationaliste convaincue. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être ce qui définit à l'époque ce courant politique ?
Oui, alors c'est extrêmement important parce que on pourrait dire que vraiment l'internationalisme, c'est la vertu cardinale du socialisme ou du communisme, comme on l'appellera après. C'est-à-dire la théorie révolutionnaire du prolétariat. On se souvient de la célèbre formule de Marx dans le manifeste de 48, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Ça signifie concrètement que tout problème doit être posé du point de vue de l'unité et du renforcement de la solidarité internationale de la classe ouvrière. Et jamais du point de vue de l'intérêt dit national, qui est le cache-sexe des intérêts de la classe dominante le plus souvent, quoi. Et on pourrait dire que l'international, c'est la seule patrie, avec tous les guillemets qui vont bien, que reconnaissent Rosa Luxembourg.
Et justement, sur ce côté internationalisme, elle fait ses études en Suisse, ensuite elle s'installe en Allemagne. Je voulais savoir, qu'est-ce qui explique que Berlin soit la capitale de la pensée socialiste à ce moment-là ?
Il y a bien sûr des éléments propres à la dynamique d'expansion du capital lui-même, la dynamique en Allemagne est extrêmement forte. Il y a une volonté de rattraper le retard, que ce soit dans le concert des nations ou en développement économique, l'Allemagne arrive un peu tard, au 19e siècle. Et l'Allemagne est aussi au cœur de la circulation des idées européennes. C'est-à-dire, c'est vraiment le lien avec, ben, vous voyez, avec l'Autriche, avec la Pologne, avec l'Empire tsariste. C'est la plupart, admettons, des réfugiés russes qui sont obligés d'être en exil, sont des gens qui sont quasi bilingues en allemand. Il va y avoir, depuis les années 1880, une formalisation, là aussi, de cette circulation des idées au travers d'une revue, Die Neue Zeit, qui devient le lieu de débat international pour tout le mouvement socialiste de l'époque.
Il y a une question quand même, Éric Sevaux. Après l'assassinat de Rosa Luxembourg en 1919, comment sa figure a-t-elle été utilisée par les pouvoirs communistes? On a vu émerger une légende sombre de Rosa, Rosa la Rouge, la sanglante, qui ne correspond pas du tout à la réalité.
Alors là, il y a deux aspects. Il faut revenir sur cette légende sombre. Ce qui est terrible, c'est que cette légende sombre, qui existe dès avant son assassinat d'ailleurs, naît au moment même où s'exerce à son encontre une violence extrême, inédite à bien des égards. Et cette violence qui marque un peu un tournant dans la brutalisation des rapports politiques en Europe. À ce moment-là, les murs de Berlin et la presse dite socialiste, encore une fois avec des guillemets, cette presse, tout ça, et les murs de Berlin se couvrent de véritables appels au meurtre contre Rosa la Rouge. On en fait une figure quasi terroriste. Et il faut se rendre compte que liquider physiquement des figures comme Rosa Luxembourg, ce n'est pas rien. C'est vraiment quelque chose d'absolument inédit. Jusque-là, on arrêtait les gens, on les envoyait en Sibérie, pour prendre l'exemple de la Russie, etc. Mais cette idée que des figures majeures de la vie politique puissent être liquidées sans jugement, etc., est tout à fait inédite. Et la répression de la social-démocratie, on peut vraiment dire que cette répression pave la voie au nazisme.
Et Éric Sevaux, si on raccroche les wagons avec 2021, voire même, on va jusqu'en 2022, est-ce que Rosa Luxembourg, elle voterait pour Fabien Roussel? Ou bien le communisme a tellement changé, on ne parle plus du tout de la même chose?
Ah oui, là on parle totalement d'autre chose, parce que vous me demandiez comment sa figure a été récupérée par les pouvoirs communistes. Il faut savoir que le communisme dit officiel, le communisme idéologique, n'a jamais fait une très grande place à Rosa Luxembourg. Voilà. En fait, en 1931, Staline publie un article où il qualifie la pensée de Rosa Luxembourg de demi-menchevique. Ça vaut arrêt de mort, notamment arrêt de mort pour la publication de ses œuvres en allemand. Il faudra attendre le début des années 1970 pour qu'en RDA, une nouvelle équipe de chercheurs se lance dans la publication des œuvres quasi complètes de Rosa Luxembourg. Donc, ce n'est pas une question de toute façon de voter ou pas, parce qu'encore une fois, il y a un écart considérable et la pensée de Rosa Luxembourg serait, on peut penser, toujours guidée par les éléments fondamentaux qu'on a vus, c'est-à-dire la lutte contre l'impérialisme, la défense de l'internationalisme. Et de ce point de vue-là, il y a peu d'expressions organisées politiques qui se situent aujourd'hui sur ce terrain-là. C'est peut-être ce qui nous interroge peut-être le plus, cet écart, et qui nous renvoie nos propres responsabilités, je dirais. Qu'est-ce que l'on fait pour aller vers un monde où il puisse y avoir une réelle émancipation et la fin de toutes les formes de domination que Rosa Luxembourg a connues et qu'on n'a pas vu vraiment s'atténuer depuis.
Merci beaucoup Éric Sevaux. Je rappelle que vous publiez l'œuvre complète de Rosa Luxembourg aux éditions Hagen-Solmny et que les 5 premiers volumes sont déjà disponibles. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires uniques. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et unique, c'est surtout la fille qu'a eue Joseph Staline. Son nom, Alilouyeva.
Alilouyeva. Vous avez bu de la vodka, en fait.
Alilouyeva. C'est ça?
Oui, c'est bien mouillé, c'est ça. Du coup, moi, je me plante aussi.
Mais vous n'y arrivez pas, vous voulez que vous le
disiez. Alilouyeva.
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 Bon. Oui, c'était sa fille unique. Il avait deux fils aussi, qui ont plutôt mal tourné d'ailleurs. Alors, elle, on l'a surnommée la petite princesse du Kremlin. Elle était vraiment la chouchoute, la fifi à son pépère, quoi. La chouchoute de Staline. Elle aimait beaucoup son petit moineau. Elle avait les cheveux roux, c'est le dire. Village grêlé de taches de rousseur. Et Staline était un père affectueux, vous savez.
On se rappelle, il aimait son chien aussi. Comme Hitler.
En 1932, quand elle a 6 ans, Svetlana perd sa mère. qui était la seconde épouse de Staline. Et on va lui raconter que sa mère est morte d'une appendicite, alors qu'en réalité, elle s'était suicidée, elle s'était tirée une balle dans la tête. Et la malheureuse Svetlana ne découvrira cela qu'à l'âge de 20 ans, parce que comme elle faisait des études d'anglais, elle faisait un exercice de traduction dans la presse occidentale, à laquelle elle avait quand même vaguement droit. Et là, elle traduit un article de l'anglais au russe, et elle découvre complètement par hasard qu'on lui a menti et qu'en fait, sa mère s'est suicidée. Ça va quand même gâter un peu ses relations avec son père. Et à 16 ans, juste avant la guerre, là aussi, ça va gâter les choses. Elle tombe amoureuse d'un réalisateur juif qu'elle veut épouser, Alexis Kapler. Et Staline ne veut pas en entendre parler. Bon, il est vrai que sa fille a 16 ans et Kapler 40, mais enfin, il est jaloux. Et puis surtout, Kapler est juif. Staline expédie Kapler en Sibérie.
Ah non.
Et oui, il va y passer 10 ans. Vous vous rendez compte, là, la fille du dictateur qui tombe amoureuse de vous, du allez hop, là, vous, en Sibérie, 10 ans. Bon. Staline oblige Svetlana à faire des études d'histoire, la malheureuse, vous vous rendez compte, cette purge, alors qu'elle préférait la littérature russe et l'anglais. Elle deviendra d'ailleurs prof de littérature russe et d'anglais. Et contre l'avis de son père en 1945. Alors, premier mariage, Grigori Morozov, mariage éclair, qui ne fonctionne pas, qui s'achève en divorce en 1947, mais il y a quand même un fils, Yosif, Joseph. 1949, elle épouse le fils du bras droit de son papa, Yuri Zhdanov, naissance d'une petite Yekaterina et nouveau divorce. Et là, la même année, ça va vous parler, Stéphane.
Oui.
Ça va évoquer des souvenirs. Elle pose nue dans Paris Match.
Non.
La fille de Staline. Ah bah si, regarde, je vous invite à regarder, googlisez-la, vous allez voir. Alors, elle est assez voluptueuse, assez pulpeuse. Enfin,
ah,
c'est
oui.
Dingue se dire que Staline laisse sa fille poser nue dans Paris Match. Mais parce qu'on voulait montrer une image un petit peu sexy de l'URSS.
Oui.
Hein. Bon, les rapports père-fille avant la guerre se gâtent carrément. Et Khrouchtchev a raconté dans ses mémoires qu'il avait vu Staline empoigner Svetlana par les cheveux pour l'obliger à danser avec lui le soir du réveillon 1952. Ils avaient quand même des relations devenues assez étranges. Alors, quand Staline meurt, bon, c'est pas facile de porter son nom. Svetlana reprend le nom de sa mère, Alilouyeva. Et à la fin des années 50, bref, mariage numéro 3 avec Ivan Jvanidze, un économiste. Donc, on est déjà à trois brefs mariages qui sont tombés à l'eau. Et c'est là qu'arrive l'enterrement, parce qu'au début des années 60, elle tombe amoureuse à Moscou d'un Indien, un communiste indien, Brijesh Singh. Et le malheureux tombe malade à Moscou, il meurt à Moscou. Et donc, elle saisit cette opportunité pour quitter l'URSS. Elle dit, oui, vous comprenez, il faut que j'aille disperser les cendres de mon amoureux Brijesh dans le Gange. Non, il faut absolument que j'aille en Inde. On la laisse y partir. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle a sans doute dispersé les cendres de son amoureux, mais elle s'est aussi réfugiée instantanément à l'ambassade des États-Unis. Et là, elle demande l'asile politique. Elle a alors 39 ans. Pas évident pour les Américains, parce qu'on est en pleine guerre froide. Donc, c'est un peu le cadeau empoisonné de récupérer la fille de Staline. On l'envoie en Suisse. On lui a envoyé en Suisse un représentant d'un grand éditeur américain qui lui ont donné $1,5 million pour son manuscrit 20 lettres à un ami qu'elle avait emporté avec elle et qui livre qui lui rapportera $2,5 million qu'elle dilapidera et qu'elle donnera de l'argent aussi pas mal à des associations de réfusniques, de dissidents. Elle arrive à New York en 67. Là, elle renie son père. Son père est un monstre. Elle compare le KGB à la Gestapo. À Princeton, elle fait son petit effet en brûlant son passeport soviétique devant la presse. Donc oui, d'une certaine manière, elle a quand même été instrumentalisée. On a communiqué autour de ça. Elle déclare qu'elle a détesté être la fille de Staline, qu'elle aurait préféré que son père soit un simple cordonnier géorgien. Peu importe où je vais, je serai partout la prisonnière politique du nom de mon père. Là, pour une fois, je ne me suis pas plantée avec l'accent espagnol. Bon, le problème, c'est que si vous voulez, en quittant la Russie, elle a quand même laissé derrière elle son fils Yossi. Joseph, qui a 22 ans, sa fille Yekaterina, 17 ans, et puis elle va avoir un troisième enfant, une fille, Olga, de son quatrième et dernier mari, l'architecte William Peters, qu'elle épouse en 70. Alors du coup, elle ne veut plus se faire appeler ni Alilouyeva, ni Staline, ni rien du tout. Elle se fait appeler Lana Peters. Alors, comme avec les trois précédents, séparation au bout de 2-3 ans. Décidément, Alilouyeva, elle n'est pas faite pour la vie de femme mariée. Et le rebondissement étonnant dans cette histoire, c'est qu'en 83, elle repart en Union soviétique, elle redemande la nationalité pour elle, sa fille.
C'est
pour
un
retour aux sources pour pouvoir aller voir ses enfants. Elle va s'installer en Géorgie et à Tbilissi, très exactement, mais elle n'est plus du tout adaptée à la vie soviétique. Donc elle retourne à nouveau aux États-Unis en 86 et là, elle y mènera une vie paisible et rangée avec sa fille Olga. Tout de même, ce qui est touchant dans cette histoire...
La conclusion.
C'est que elle avait retrouvé son Alexis Kapler quand il est sorti du goulag. Et ils ont eu une liaison tous les deux alors que Kapler était marié. Et elle considérait que c'était l'homme de sa vie. Et tout avait fermenté à partir de ça, le refus de son père qu'elle épouse l'homme de sa vie. Sa fille Olga ne savait pas du tout qui était Staline. Elle pensait que c'était un héros. Elle avait la photo, on le voyait à côté de Churchill et de Roosevelt. Donc elle disait, mais mon grand-père, c'est l'homme qui a battu les fascistes. Et elle était fondée à le croire, eh bien, croyez-le si vous voulez, la petite fille de Staline, aujourd'hui elle s'appelle Chris Evans, elle est bouddhiste et elle vend des antiquités asiatiques.
Alors c'est drôle parce que je pense que ça c'était il y a 2-3 ans, puisque maintenant j'ai retrouvé la photo de cette fameuse Olga, la petite fille, alors je ne sais pas si on va pouvoir la voir sur Europe1.fr, vous la chercherez. Hein, elle a l'air un peu militariste avec des armes et complètement
punk. Non, ça c'est pas la petite fille, ça doit être l'arrière petite fille.
C'est Olga, la fille de celle dont vous avez parlé, la fille d'Alilouyeva.
Ouais, bah c'est
je peux vous dire, tapez Olga sur petite fille de Staline. Vous n'allez pas être déçu du voyage. Vous restez avec nous, ma chère. Le quiz arrive. Celui qui perd aujourd'hui, direction le goulag. À tout de suite.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Elle aime les quenelles, elle aime les communistes, elle aime les quenelles communistes. Mais ce qu'elle préfère, c'est déguster Stéphane Bern bien à point dans le quiz. Jouons à Bern to be alive. Stéphane, la première question est pour vous.
Ah, j'écoute.
Écoutez attentivement. Louis Ducon de Haureau est l'inventeur avec Charles Cros.
Louis Ducon.
Est l'inventeur de la photographie en couleur. Vrai ou faux?
Louis
Ducon de Haureau serait l'inventeur avec Charles Cros de la photographie en couleur. Vrai ou faux?
Monsieur Castello-Lopez nous a raconté l'histoire de la photo couleur.
David Castello-Lopez est-il forcément complet, exhaustif?
Je ne sais pas. Ça ne me dit rien. Je suis sûr qu'il y a un piège, que c'est un champion de tennis de table, vous voyez.
Vous n'avez jamais entendu parler de Louis Ducon de Haureau. Ce nom ne vous dit rien?
Rien du tout.
Il devrait pourtant.
Ah oui?
Donc je vous repose la question. Louis Ducon de Haureau est-il l'inventeur avec Charles Cros de la photographie en couleur?
Donc, vrai, là-haut.
Non, je dirais non.
C'est faux.
Vous avez voulu vous aider, hein?
Non, c'est une bonne réponse, Stéphane. C'est Louis Ducon de Haureau et non pas Ducon de Haureau. Nous présentons officiellement nos plus plates excuses à la famille pour cette facétie de mauvais goût. C'était en 1877 et David en avait parlé. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Avant cette date fatidique du 24 octobre 1901, personne n'avait jamais survécu à la terrible épreuve de la descente des chutes du Niagara enfermé dans un tonneau de bois. Qui a réussi cet exploit? Un pompier de 30 ans? Une institutrice à la retraite? Ou le maire d'une ville canadienne?
Une institutrice à la retraite. Les photos sont d'ailleurs spectaculaires parce qu'elle est là dans sa robe, pas crinoline, mais enfin une espèce de costume de dame tout à fait décent et allant jusqu'aux pieds. C'est quand même une drôle de tenue. Je me demande si elle n'avait pas gardé son chapeau. Une drôle de tenue pour se mettre dans un tonneau et descendre les chutes du Niagara. C'est donc une femme, une institutrice à la retraite. Oui, quelle audace.
C'est effectivement la réponse à la question, mais elle est décrétée trop facile par le jury. Nous vous demandons son nom. Qui est pris, croyez prendre.
Est-ce qu'elle s'appelait Godot, Gisèle?
Non,
elle
pas
s'appelait
du tout.
Mary something.
Non.
Non. Quel est le prénom d'américaine très... Jane.
Non plus.
Non plus. Mary Jane.
Non, c'est une mauvaise réponse.
Non, mais dis donc.
Elle ne s'appelle pas Jane, mais enfin, quand même, vous connaissez Annie Edson. Annie Edson
Annie,
Taylor,
Annie,
bien sûr,
Annie,
Stéphane
Annie,
ne connaît
voilà.
qu'elle. Bah, à 63 ans, elle avait rembourré le tonneau à l'intérieur avec un matelas. Petit souci, tout l'argent de l'exhibition a été détourné par un vilain agent. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Notre ami Isaac Newton a été le premier à décomposer la lumière visible en un prisme. Grâce à lui, on sait depuis le XVIIe siècle que la lumière blanche est composée des couleurs de l'arc-en-ciel. Il en a trouvé 6. Mais comme le chiffre 7 est plus sympa, il a dit 7. Vrai ou faux?
Alors là... Non, c'est pas possible.
C'est pas possible.
Si on a 6, ouais.
Oh, mais vous êtes trop rationnel, Stéphane. Bon. Non, il y a des... Entre les... Quand on regarde un arc-en-ciel...
Bah, allez, ça vous fait plaisir si je vous dis que c'est vrai?
Moi, rien ne me fait plaisir. Moi, je suis pour... Pour la véracité
pour la
historique.
Neutralité. Il est pour la neutralité.
Seule la vérité n'intéresse, Stéphane. Oui.
Non mais vous plaisantez là.
Oui. Oui.
Je veux dire que c'est vrai.
Vous avez gagné.
Eh oui. L'histoire de la physique n'a pas de secret pour lui. Mais oui, vrai.
En
fait,
en maths.
Ce ne sont pas des couleurs scientifiquement, mais des nuances de couleurs. Si on veut vraiment les compter, il n'y en a que 6. L'indigo a été considéré comme une couleur alors que c'est plutôt une variante de bleu. Mais 7 était un chiffre plus marquant. Les 7 planètes du système solaire, les 7 jours de la création, etc. Voilà pourquoi il a choisi de dire qu'il y en avait 7. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. C'est à un filleul d'Elisabeth Ière d'Angleterre que l'on doit l'invention d'une chasse d'eau moderne. Vrai ou faux ?
D'Elisabeth Ière ou seconde ?
Elisabeth Ière.
Première. Oui. Oui, je sais que la chasse d'eau a été inventée par des Anglais et que éventuellement pour une rare élite, on est mis au point un système de chasse d'eau assez sommaire. C'est pas compliqué une chasse d'eau en réalité.
Bah, il fallait en avoir l'idée.
En effet, ça a été inventé par les Anglais. Donc je réponds oui, pourquoi pas.
Vous avez gagné.
C'est une excellente réponse en ce sens qu'elle nous permet d'arriver à égalité. John Harrington est l'inventeur. Alors à l'époque, on est plutôt pot de chambre. John est l'un des 102 filleuls de la reine et il va, à la demande de celle-ci, mettre en place une chasse d'eau rudimentaire avec un robinet pour laisser couler de l'eau et que tout aille dans une fosse septique. Et vous savez quoi ? Vous qui aimez les séries, John Harrington est l'ancêtre de Kit Harrington, l'acteur qui a joué Jon Snow dans Game of Thrones.
Maintenant, chaque fois que vous
le verrez,
son aïeul a inventé la chasse d'eau. Non, vous êtes vache, écoutez.
Question numéro 5, elle va vous départager. Nous partons dans l'espace. Vous adorez partir dans l'espace. Dans l'histoire de l'espace, Monsieur Shukor a une place à part. Pourquoi ? 3 propositions. C'est le premier homme à avoir bu de l'alcool dans l'espace. C'est le premier à avoir fait le ramadan dans l'espace. C'est le premier homme à avoir eu un orgasme dans l'espace.
2. 1. Ramadan.
C'est le premier homme à avoir eu de l'alcool dans l'espace, Stéphane ? Ça, c'est votre...
J'adorerais. C'est 2, évidemment, la bonne réponse, c'est 2.
Ben oui, ben pourquoi ? Ben vous avez...
Mais parce que je veux pas... Elle dit 2, je veux dire 1.
Ah, vous voulez vous différencier ?
Oui, exactement.
Ben vous auriez dû dire l'orgasme dans l'espace, alors. Pensez que Thomas Pesquet... Pensez que... Comment ça se passe ? Vous restez 6 mois dans l'espace.
C'est abstinence.
Ben vous pouvez pas tout retenir comme ça pendant 6 mois.
Ben dans la pesanteur.
Dans la pesanteur ?
Oh, je ne sais pas, écoutez.
Comment ça se passe, mon apesanteur ?
J'ai déjà été au 7e ciel, mais j'ai pas vu comment
c'est beau, vous êtes poétique. Bon bref, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est Clémentine Portier-Keltenbach qui l'a.
Bravo Clémentine.
Oui, Shukor a fait le ramadan dans l'espace. Il est malaisien, ça s'est passé en 2007, sachant que dans l'espace, le jour ne dure que 45 minutes. Ça peut être compliqué, mais il a fait le ramadan comme s'il était sur le site de lancement de Baïkonour au Kazakhstan.
Bravo, bravo.
Bravo à lui et bravo à vous.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Nous entrons les amis dans la deuxième heure d'Historiquement vôtre, un numéro spécial consacré à ces femmes qui voyaient rouge à tous les sens du terme. Elles étaient indignées, révoltées et parfois même, Stéphane,
pire, communistes.
Oui, mais je crois que de ce côté-là, le plus dur est passé, Stéphane.
Oui, je vous ai raconté le destin de Rosa la Rouge, Rosa Luxembourg, et je vais maintenant vous raconter celui de la révolutionnaire qu'on a voulu faire taire, Thérouanne de Méricourt. Et elle aussi, comme Maggie,
elle voit souvent rouge.
On reste dans l'univers des séries télé puisque Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une comédienne 100% authentique devenue star du petit écran, Corinne Maciero.
Oui, vous la connaissez pour son rôle dans Capitaine Marlowe. C'est elle qui, au détour d'un plateau de François, vous a appris, Stéphane, à bien dire « Oh les mains !» Policière atypique à l'écran, vous allez voir qu'elle l'est tout autant si ce n'est plus dans la vie. Et nos chroniques, Stéphane.
David Castel-Lopez qui remonte aux origines d'un même, déjà je ne sais pas ce que c'était. Charlie Beat Me, ça veut dire Charlie m'a mordu. Mord-moi, on ne sait pas ce que c'est.
Non, m'a mordu.
Si vous voulez, il remonte aux origines de quelque chose qui fait notre quotidien.
Oui.
Mais son quotidien, c'est pas le nôtre.
Et le quotidien d'un milliard d'autres personnes.
Oui.
Je vais faire comme avec le Nyan Cat il y a quelques semaines, je vais vous expliquer ce que c'est et ensuite je vais vous expliquer les origines.
D'accord, on va beaucoup s'amuser, je le sens. Et puis... Non mais si.
Je sens poindre l'ironie.
Non, pas du tout. Parce que,
n'est qu'une boule d'ironie.
Parce que c'est assez drôle en général. Alors, avec nous également, Olivier Pouls, on remonte aux origines d'un plat, d'un mets, en l'occurrence
la betterave. Là, vous voyez de quoi il s'agit, connaissez.
Ah oui, la betterave rouge.
Ouais, exactement. Alors, je vais devoir faire un peu mon avocat des causes perdues. Vous connaissez ça, Mathieu ?
Ah oui, c'est ça tous les matins.
Oui, parce que la betterave rouge, il faut bien reconnaître qu'elle n'a pas une réputation terrible. Elle a quand même traumatisé une génération entière d'enfants à l'école avec ce goût terreux.
Ça a le goût de la terre, oui.
Mais normalement, non. Quand c'est bien préparé, et je vous donnerai quelques astuces. astuce.
Donc c'est notre faute, c'est qu'on la prépare mal.
Bah, c'est la faute du cuisinier de l'école.
Enfin, aux alentours de 6h moins le quart, l'un d'entre nous verra rouge, au propre comme au figuré, puisqu'il sera le loser, souvent spolié de la lutte finale. Oui, vous noterez que normalement ici, je fais une vanne sur le fait que je gagne tout le temps dans ce quiz, mais là, comme j'en suis à 12 défaites d'affilée, la régie m'a signalé que j'aurais plutôt intérêt à faire profil bas, ce que je fais. Pour l'heure, partons à la rencontre de notre deuxième personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle a inscrit son nom en lettres rouges dans l'histoire de la Révolution qu'elle a portée à bras-le-corps sans jamais se résigner. Une révolutionnaire que beaucoup ont voulu faire taire et qui y sont parvenus. Stéphane Bern nous raconte l'Amazone rouge, Théroigne de Méricourt.
Citoyenne, armons-nous, nous en avons le droit par la nature et même par la loi. Montrons aux hommes que nous ne sommes les inférieurs ni en vertu ni en courage. Montrons à l'Europe que les Françaises connaissent leurs droits et sont à la hauteur des Lumières du XVIIIe siècle. Debout à la tribune de la Société fraternelle des Minimes, ce 25 mars 1792, Théroigne de Méricourt exhorte les femmes du Faubourg Saint-Antoine à prendre les armes et à défendre leurs droits et leur place dans la Révolution. Théroigne a alors 30 ans, une solide expérience de la vie et des idées bien affirmées. Anne-Joseph Théroigne, son nom exact, est née en 1762 à Marcourt, dans la principauté de Liège. Théroigne de Marcourt, deux éléments biographiques qui serviront plus tard à former son surnom. La petite fille connaît une enfance triste, ballottée après la mort de sa mère, entre un couvent de lointains parrains et la maison de son père, où elle subit les foudres de sa marâtre. Gouvernante dans des maisons bourgeoises, l'adolescente connaît toutes les humiliations réservées au petit peuple. Mais à 17 ans, elle fait une rencontre décisive avec Madame Colbert, une lady anglaise qui décèle derrière ce joli visage un tempérament hors du commun. L'aristocrate l'engage comme dame de compagnie et l'introduit dans le monde. Théroigne sait lire et écrire, se passionne pour les textes des philosophes des Lumières, autant que pour le chant et le piano, et elle se rêve cantatrice. Entre Londres et Paris, la jeune femme tombe enceinte d'un officier anglais qui n'assume pas sa paternité, est entretenue par un vieux marquis et connaît une succession d'amours tumultueuses et malheureuses avec des musiciens. En mai 1789, la nouvelle de la convocation des États généraux par Louis XVI la trouve en Italie. Elle fait naître un tel engouement chez la jeune femme que Théroigne se met immédiatement en route pour la France. Et pour être au plus près des événements, elle s'installe à Versailles où siège l'Assemblée. Là, depuis les tribunes, elle assiste à tous les débats, mais elle ne compte pas rester assise. Théroigne en est persuadé, la justice et le bon droit sont du côté du peuple. La révolution devient sa raison d'être. Lorsque l'Assemblée migre à Paris au mois de novembre 1789, elle la suit dans la capitale. Elle y ouvre un salon, rue du Boulois, à deux pas du Palais Royal, où se bousculent les personnalités, notamment Camille Desmoulins. Théroigne fonde aussi alors plusieurs clubs révolutionnaires. Elle fréquente Danton, Marat. Un élément fait sa réputation. Elle porte un costume d'Amazone. Une jaquette et une jupe normalement réservées aux intrépides cavalières. La tenue donne une allure plus masculine que la robe. Elle est d'ailleurs généralement réalisée par des tailleurs pour hommes. Théroigne choisit des draps bleus ou rouges qu'elle associe à un foulard blanc et à un feutre à plumes. Elle raccourcit ses cheveux qu'elle ne poudre pas plus qu'elle ne farde son visage. L'Amazone rouge, l'Amazone de la liberté, comme on l'a surnommée depuis, veut, selon ses propres mots, avoir l'air d'un homme et fuir ainsi l'humiliation d'être une femme. Son combat révolutionnaire se double d'une réflexion poussée sur la place des femmes dans la société. À ses semblables, elle lance « Brisons nos fers ». Il est temps enfin que les femmes sortent de leur honteuse nullité ou l'ignorance, l'orgueil et l'injustice des hommes les tiennent asservies depuis si longtemps. Théroigne de Méricourt souhaite que les citoyennes s'organisent en corps armé, en bataillon d'Amazone, pour défendre la patrie. C'est ce qui lui vaut d'être souvent représentée avec des armes à la ceinture. Hélas, les femmes qui ont l'audace de prendre la parole, de réclamer des droits, sont bien vite malmenées par la Révolution. Par son engagement et sa visibilité, Théroigne de Méricourt est en première ligne. Elle devient la cible favorite de la presse royaliste. Les journalistes font d'elle une débauchée, une nymphomane et une dangereuse sanguinaire. Elle qui préfère les discours à l'action. Elle est calomniée, insultée de tous les noms, pute, catin des patriotes, furie révolutionnaire. L'image reste, puisqu'au XIXe siècle, Charles Baudelaire la qualifie encore d'amante du carnage. Ce personnage lui échappe. Accusée de tous les maux, Théroigne de Méricourt se voit aussi reprocher toutes sortes de faits. On raconte qu'elle a pris la Bastille, ce qui est faux, et mené la marche des femmes jusqu'à Versailles, alors qu'elle n'y était pas. Ou encore d'avoir pris part au massacre d'un pamphlétaire. Mitterrand de Méricourt a aussi des ennemis dans le camp révolutionnaire. Le 15 mai 1793, elle est agressée par des femmes qui l'accusent de soutenir les Girondins. L'altercation est d'une violence extrême. Elle est traînée au sol par les cheveux, frappée à la tête à coups de pierre, fouettée puis jetée dans un bassin. Humiliation suprême, sa jupe est relevée et elle est fessée publiquement. La jeune femme en conservera un traumatisme durable. Au printemps 1794, Théroigne de Méricourt échappe à la prison. Elle est internée comme aliénée mentale sur demande de son frère qui en profite pour s'approprier ses biens. Malgré ses contestations, elle est déclarée folle et transférée à la Salpêtrière où elle survit dans des conditions abominables. Elle meurt en 1817 à 55 ans, après 23 années d'enfermement. Son rôle et son combat pour les droits des femmes seront longtemps occultés de l'histoire de la Révolution, qui n'aboutira pas à une amélioration de la condition féminine. À l'image de Théroigne de Méricourt, traitée de femme-homme accusée d'usurper les codes du masculin, les femmes révolutionnaires sont progressivement écartées de la sphère publique. En octobre 1793, un décret de la Convention interdit les clubs féminins. En 1795, elle se voit refuser l'accès aux tribunes de la Convention. Malgré les rêves et les luttes de ces premières féministes, les Françaises n'accèdent finalement à la citoyenneté électorale qu'en 1944, plus de 120 ans après la mort de Théroigne de Méricourt.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour en savoir plus sur Théroigne de Méricourt, nous sommes avec une historienne qui connaît toute sa vie. Bonjour Dominique Godineau.
Bonjour.
Bonjour Dominique Godineau, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université Rennes 2, spécialiste des femmes et de la Révolution française. Théroigne de Méricourt est l'une des figures féminines qui incarne cette période révolutionnaire. Quelles sont au fond ses idées politiques? Où se place-t-elle sur cet échiquier un peu compliqué, l'échiquier politique qui est en train de se dessiner au moment de la Révolution?
Oui, alors c'est effectivement un peu compliqué, mais elle, c'est quand même assez clair. Hein. Elle se situe, on dirait aujourd'hui, à gauche. Comme on disait à l'époque, elle soutient le côté gauche de l'Assemblée, c'est-à-dire les députés qui siègent à gauche. Comme vous l'avez dit, elle fréquente régulièrement les tribunes de l'Assemblée. Elle se lie aussi d'amitié avec des révolutionnaires qui, eux aussi, hein, peuvent être considérés, suivant nos mots d'aujourd'hui, à gauche. Des futurs députés montagnards, Danton, Rome, avec qui elle forme des clubs, hein, comme vous l'avez dit. Elle fréquente aussi les tribunes du club des Jacobins. Et puis, en 1792, par exemple, elle est très engagée dans le mouvement anti-royaliste. Elle prend part à différentes manifestations, elle est présente hein, lors de l'insurrection anti-royaliste du 10 août 92. Elle combat, hein, puisqu'elle recevra même une couronne civique en récompense de son courage. Alors, en 1793, on dit souvent qu'elle est girondine. Bon, c'est peut-être un peu rapide, hein, et en fait, elle continue à avoir des amis parmi les montagnards. Elle n'est pas vraiment dans un camp ou dans l'autre. Elle, surtout, elle est contre les divisions entre révolutionnaires. Voyez, parce qu'elles affaiblissent la France révolutionnaire, qui est à ce moment-là en guerre contre toute l'Europe. Et elle lance des appels à la réconciliation contre les puissances étrangères, puisque la France est assiégée quasiment par toute l'Europe. Donc, à gauche hein, et pour l'unité.
Dominique Stéphane l'expliquait, Théroigne de Méricourt s'est distinguée aussi par son habit d'Amazone. Quelle signification cet habit avait-il pour elle? C'était une forme de transgression?
Transgression, je ne sais pas. Alors, ou alors une forme légère de transgression. Hein. Elle n'était pas habillée, comme on disait à l'époque, en homme, c'est-à-dire avec des pantalons. Ce costume donne une allure beaucoup plus masculine que la robe. De plus, vous l'avez aussi signalé, elle s'est fait couper les cheveux. On la voit sur un portrait avec des cheveux mi-longs. Donc, ce n'est pas anodin. C'est probablement là une façon de vouloir se présenter comme une femme libre, vous voyez, indépendante. Une femme qui refuse l'image de la femme coquette d'Ancien Régime.
Dans votre livre, Dominique, les femmes dans la France moderne, vous rappelez que dans le bouillonnement de la Révolution, les femmes ne sont pas absentes. Quel rôle ont-elles exactement? C'est vrai qu'il y a un paradoxe, c'est que la Révolution affirme le principe d'égalité, et pourtant les femmes sont toujours exclues de la citoyenneté. Je pense toujours à cette phrase d'Olympe de Gouges qui dit... Les femmes ont le droit de se faire couper la tête, elles pourraient au moins avoir le droit de s'exprimer et de monter à la tribune.
Oui, oui, fameuse phrase. Alors, d'abord, oui, les femmes ont participé à la Révolution, hein, tout en étant exclues de la citoyenneté, ce qui est contraire au principe d'égalité des droits. Alors, peu de révolutionnaires ont vu ce paradoxe. Mais alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a malgré tout quelques hommes et quelques femmes hein, qui ont protesté contre justement cette exclusion, cette violation des principes. Alors, bien sûr, Olympe de Gouges, hein, que vous avez cité. On peut citer Condorcet, Rome. Un député breton, Guillaumard, hein, qui assure... Il écrit une phrase très, très belle. Hein, il assure que si les femmes ne peuvent pas voter, l'immortelle déclaration des droits contient une mortelle exclusion. Donc, vous voyez, le paradoxe, il a été vu par quelques-uns, quelques-unes qui restent très minoritaires, mais ce qui n'a pas empêché les femmes de participer à la Révolution, de faire acte de citoyenne, et on peut dire qu'elles ont été des citoyennes sans citoyenneté.
Alors, on l'a dit, Théroigne de Méricourt a été injuriée par la presse, elle a subi l'humiliation publique. Est-ce que c'est ce qui l'a plongée dans la folie ? Est-ce qu'on en sait davantage sur les raisons de son internement ? Est-ce que c'était d'ailleurs vraiment de la folie ou juste une manipulation de son frère ?
Alors, c'est difficile à savoir, hein, parce qu'il y a peu d'archives sur ce point. Tout ce qu'on sait, c'est effectivement son frère l'a fait interner, qu'elle, au début en tout cas, elle proteste. Mm-hmm. C'est vrai qu'elle a eu une vie difficile, hein, traînée dans la boue par les royalistes, avec des termes vraiment orduriers. Et puis, il faut savoir aussi que... En 1783, elle était retournée chez elle en Belgique qui appartenait à l'époque, enfin, il n'y avait pas de Belgique, hein, c'était les Pays-Bas espagnols, oui, qui appartenaient à l'Empire d'Autriche. Et elle a été enlevée de nuit, accusée d'être une espionne française, enfermée dans des conditions très très éprouvantes, hein, dans une forteresse dans les Alpes autrichiennes. Et le médecin de la prison note à ce moment-là que sa santé physique et surtout morale est très dégradée à cause de sa détention. Et puis c'est sûr qu'ensuite, hein, être fouettée publiquement par des femmes révolutionnaires, alors qu'elle-même est une femme révolutionnaire, eh bien, constituer un traumatisme incertain. De fait, d'ailleurs, elle n'intervient plus dans la Révolution après cet épisode. Entre mai 93, le moment où elle est fouettée, et son enfermement en juin 94, on n'a plus de traces d'elle, vous voyez, dans les archives.
J'avais une autre question. Il y a une légende noire qui accompagne la figure de Théroigne de Méricourt et qui perdure tout au long du 19e siècle à travers les écrits de Michelet, de Lamartine ou de Baudelaire. À partir de quand sa figure est-elle réhabilitée ? Et puis, récemment, on a dit, par exemple, que c'était son visage qu'on voyait dans la liberté guidant le peuple de Delacroix. Est-ce que c'est exact ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
D'abord, effectivement, donc une légende très noire, hein, au XIXe siècle. Et c'est à la fin du XIXe siècle, dans le contexte, vous voyez, d'un mouvement féministe... première vague féministe relativement importante, fin XIXe, début XXe, vous avez un historien qui écrit un ouvrage, hein, qui s'appelle « Les origines du féminisme contemporain », ouvrage publié en 1900, et qui a une vraie démarche d'historien, il mène une étude sérieuse, hein, il déconstruit tous ces fantasmes qui se sont construits progressivement autour de Théroigne de Méricourt. Il réhabilite son image, et à partir de là, elle est réhabilitée dans une grande partie de l'opinion. Et alors, quant à savoir si c'est son visage qui
illustre la liberté guidant le peuple de Delacroix.
Voilà. On a plusieurs portraits d'elle, mais dont on ne sait pas s'ils sont vraiment d'elle. Le seul que l'on connaît d'elle, dont on est sûr qu'il soit vraiment d'elle, non, on ne peut pas dire qu'elle ressemblait à cette femme de la liberté guidant le peuple. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que quand Delacroix peint Théroigne de Méricourt, elle représente pour les hommes du 19e siècle la femme révolutionnaire. C'est vraiment la plus célèbre, beaucoup plus célèbre que Olympe de Gouges, qui était beaucoup moins connue à cette époque-là qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant, Dominique Godineau. Je rappelle le titre de votre livre, Les femmes dans la France moderne, disponible aux éditions Armand Collin. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces femmes qui ont vu rouge. Après Rosa Luxembourg et Théroigne de Méricourt, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une comédienne dont le naturel a fait le succès et qui, elle aussi, a tendance à voir rouge, hein. L'explosive Corinne Massiero, alias Capitaine Marlowe.
Oui, c'est d'ailleurs avec des pincettes que j'aborde ce portrait, car Corinne m'a mise en garde.
Ouais, un commentaire et ça m'a washi guéri direct dans le plexus.
Mais Corinne, il n'y a aucun risque, je vous trouve merveilleuse.
Mon coup préféré, les valseuses. J'adore Patrick Devers.
Stéphane, je ne vous présente pas Corinne Massiero, votre rivale directe sur le créneau du téléfilm policier français populaire de service public et dont la formidable gouaille lui permet de réunir à chaque fois avec Capitaine Marlowe entre 5 et 8 millions de téléspectateurs. Elle est épatante.
Mais elle est surtout alcoolique depuis l'adolescence.
Non, Stéphane, non, on avait dit pas de mesquinerie. Il y a de la place sur le service public pour Meurtre en Lorraine et pour Capitaine Marlowe. Inutile de vous monter le bourrichon. Chacun son style. Vous, l'élégance aristocratique, cette manière si précieuse de dire « Oh, les mains !» Corinne l'approche plus brute de décoffrage. Corinne Maziéros fait sa vraie figure d'ovni dans le paysage audiovisuel français. Elle est ch'ti, elle est rouge.
Pire, communiste.
Oui, Stéphane, elle ne s'en cache pas, Corinne adore la lutte finale. Pas notre quiz de fin d'émission, ça, elle s'en fout. Non, la vraie. Les chasseurs, des cons. Macron, un enfoiré. La SNCF, tous des pourris. Fervente supportrice des Gilets jaunes, de François Ruffin et de la cause animale, puisqu'elle est végétarienne depuis plus de 30 ans, elle est installée encore aujourd'hui à Roubaix. Là, vous vous dites...
Elle est positivement folle.
Non, Stéphane, elle a su rester fidèle à ses convictions. Contrairement à vous, quand Corinne dit en interview à Drucker « Oh, vous savez, Michel, je n'ai pas changé. » Pour elle, c'est vrai. Vous me l'avez confirmé hors antenne. C'est la plus belle qualité de Corinne Maziéros, ne jamais avoir oublié d'où elle vient, Stéphane. C'est très rare de ne pas se laisser griser par le succès. Prenons David, par exemple. Il y a fort à parier que dans longtemps, quand ses petits-enfants lui demanderont si la notoriété de Stéphane Bern a été pour lui, qui travaillait dans son émission, un accélérateur de carrière, il dira « Oh, Bern !»
Il n'était pas si connu.
Corinne, elle, n'oubliera jamais ce qu'elle doit à ceux qui l'ont aidé. Corinne Maziéros, née en 1964 à Douai, dans le nord de la France, berceau de Danny Boone, du Welsh et des Ch'tis à Mykonos. Sa mère est femme de ménage, son père travaille à la mine.
Il n'avait pas beaucoup de sang royal dans les veines,
oh,
n'est-ce pas ?
Oh non, très peu, Stéphane. Ses parents, Stéphane, sont communistes et dès le plus jeune âge, Coco passe le plus clair de ses week-ends dans les manifs, le poing levé à scander.
À bas les ministres, à bas les aristocrates.
Question Stéphane, est-ce que vous avez déjà fait du stop pour rentrer chez vous dans votre vie ?
Oui, ça m'est arrivé.
Sans déconner, vous avez déjà fait du stop.
Oui.
Moi qui racontais l'autre jour à la radio que vous aviez un chauffeur. Je suis vraiment loin de la réalité.
Bah oui, vous êtes surtout.
Vous avez déjà pris, vous avez déjà fait du stop. À 15 ans, Coco, elle part carrément faire le tour de l'Europe en autostop. Puis, fauchée, elle revient, elle passe son bac sans avoir révisé, l'obtient et connaît par la suite une jeunesse un peu plus chaotique. Elle raconte « Avant d'être actrice, j'ai tenu un bistrot, j'ai été femme de ménage, j'ai gardé des gosses, j'ai vendu de la cam, j'ai vendu mon cul, j'ai dormi dans ma bagnole. » Sans domicile fixe pendant plusieurs mois, assez effroyable, elle sera sauvée par une troupe de théâtre qu'elle intègre sur le tard à 28 ans. Elle reprend sa vie en main, se découvre, se révèle à elle-même en attendant d'être révélée aux Français. Elle fait quelques apparitions au cinéma et tape dans l'œil de grands réalisateurs comme Francis Weber, Xavier Giannoli et Patrice Chéreau. Puis elle intègre une première série à succès pour France Télévisions, Fais pas ci, fais pas ça, dans le rôle de Tata Soso, la sœur ch'ti et totalement frappadingue de Madame Lepic.
Mais qu'est-ce que c'est que cette ambiance de merde ? Alors quoi ? C'est un mariage ou un enterrement ? Allez, bande d'hétéros, musique !
Le ton est donné. En 2012, elle obtient le premier rôle de Louise Wimmer, spécialement écrit pour elle, une femme au chômage contrainte de vivre dans sa voiture. Le rôle lui vaut une nomination pour le César de la meilleure actrice et Jacques Audiard l'a fait tourner dans De Rouille et d'Os l'année d'après. L'aventure Capitaine Marlowe commence en 2014. En fait, José Dayan tourne un téléfilm avec Muriel Robin dans lequel Corinne interprète une capitaine de gendarmerie. Un second rôle qui, c'est une évidence pour José, doit devenir un premier. Capitaine Marlowe est né, la série démarre en 2015 sur France 3, mais l'engouement est tel que le programme bascule sur France 2, Corinne Maziéros devient l'idole des Français.
Mais elle est surtout alcoolique depuis l'adolescence.
Mais oui, Stéphane, mais ça, c'est mais une preuve du succès de la série. C'est
ça,
la liste
vous
des
avez
guests.
Pris ça d'une autre émission. Je le dis pour ceux qui.
Oui,
par
si
exemple,
Corinne
qui
nous écoute.
Bien sûr.
La liste des guests est incroyable hein, dans Capitaine Marlowe, Gérard Depardieu, Pierre Arditi, Catherine Fro, Laura Smet, Victoria Abril, Isabelle Adjani, Benjamin Biolay. La clé du succès, mais certainement le flou entre le personnage de ce capitaine Marlowe et la vraie Corinne Maziéros. Dans Marlowe, il y a beaucoup de moi, confie Corinne. Je réécris les dialogues, les petites blagounettes, je fais des impros. Quand la réalisatrice lui dit oui, elle fonce. Quand elle lui dit non, elle fonce aussi. Quand elle lui dit non, vraiment ça tu peux pas, Corinne, elle lui dit merde, je fais ce que je veux. Une liberté confinant au je m'en foutisme en ce qui concerne sa gestion de carrière. La notoriété, je m'en fous, lance-t-elle fièrement. Pas question donc pour Corinne de renier ses convictions, Stéphane, ou même de les mettre en veilleuse pour séduire le plus grand nombre. Elle a sa carte de Parti communiste depuis 2003. Elle est membre également de la section Bourrin de la coordination des intermittents et précaires du Nord-Pas-de-Calais. En 2014, elle s'est même présentée sur la liste du Front de Gauche de Roubaix au municipal. À l'occasion des Césars 2020, elle dénonce, je cite, la mainmise des bourgeois hétéro-catholiques blancs de droite. Une chance, Stéphane, une catégorie près, vous étiez dans le lot. En mars 2021, elle vient remettre le César du meilleur costume, nu, couverte de sang, tampon hygiénique en guise de boucle d'oreille, afin de dénoncer le traitement de la culture par le gouvernement lors de la crise sanitaire. Maintenant, on est comme ça, tout nu, scande-t-elle en soutien aux intermittents. Sans transition, quelques jours après, dans une interview, elle avoue être d'une nature introvertie et d'une timidité maladive. Qu'est-ce que ça aurait été si tu avais été extraverti, ma coco ? Suite à cette opération défeuillage politique, 9 parlementaires Les Républicains signalent au procureur de la République une exhibition sexuelle. L'affaire sera étonnamment classée sans suite. Pauvre France, commentera Stéphane Bern. Forcément, cette spontanéité, Corinne la retrouve dans ses amours. Pendant 20 ans, elle a partagé sa vie avec Nicolas, directeur d'une troupe de théâtre qu'elle a rencontré à une manif anti-MEDEF. Bref, entre deux sandwichs merguez, elle lui dit avec sa franchise habituelle « C'est où tu veux, quand tu veux. On a dîné ensemble le soir même, on s'est revu le lendemain, on ne s'est plus quitté. » Enfin, jusqu'à cet été, après 21 ans de couple, selon le magazine Closer, c'est Coco qui aurait choisi de mettre fin à leur relation. Elle vivrait aujourd'hui en communauté dans le Nord et elle aurait, je cite, « beaucoup de mal à l'idée de revivre un jour en couple. » T'as raison, ma Coco, profite de la liberté. D'ailleurs, je suis au regret, Stéphane, de vous dire qu'on a loupé une belle soirée pour votre anniversaire, ça aurait été top, avec son groupe Les Vaginites, un trio électropunk qu'elle a fondé. Elle était en concert caritatif le dimanche 14 novembre au Black Lab à Vascal dans le Nord. On a raté ça.
Ça alors, je n'en reviens pas.
Mais oui, mais comme c'est dommage, heureusement, samedi prochain, on a le concert d'Olivier Pouls à Namur.
Et chez les Queens, les reines du piment.
Vous serez là, Stéphane.
J'aime pas le piment.
Oh, quel dommage. Ça a l'air d'être bien.
Merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces femmes qui voyaient rouge.
Oui, à votre demande, Stéphane, vous qui me dites hors antenne, bon, les cocos, ça va 5 minutes. Après des cocos, des drôles de cocos, nos chroniqueurs, Olivier Pouls, vous nous parlez justement d'un produit lui aussi rouge. On y revient.
Bah, on peut pas s'en
la
passer.
La betterave.
Ouais, la betterave rouge, mais il y a d'autres betteraves. Il y a de la blanche, il y a de la jaune aujourd'hui, il y a plein de variétés.
Ah, vous allez nous parler de toutes les betteraves.
Oui, c'est très complet. Sectaire, moi,
vous n'êtes pas sectaire, mais ouvert. Tout de suite, David Cassello, lui, encore plus ouvert que vous, puisqu'il nous parle de quelque chose qu'avec Stéphane, nous ne connaissions pas.
Moi non plus, d'ailleurs.
Charlie Beat Me. Qu'est-ce l'origine de Charlie Beat Me, l'origine d'un mème qu'apparemment 1 milliard de personnes ont vu sur Internet.
Alors mon travail ici, vous le savez, c'est de parler de l'origine des choses, mais quelquefois je suis un petit peu embêté parce qu'il y a certaines choses dont les origines sont un peu nulles, un peu ennuyeuses, vous voyez. Et donc je fais ce que je peux, vous l'avez vu plusieurs fois, je meuble avec des fun facts, je fais des mini-quiz.
On est tous là.
Mais voilà. Mais ça m'a amené à me demander, c'est quoi une bonne histoire d'origine ? Eh bien, une bonne histoire d'origine, c'est très souvent une petite chose minuscule, vous voyez, qui devient gigantesque. Une personne dans son garage qui invente un objet qui révolutionne le monde, un accident banal qui débouche sur une idée incroyable. Et je me suis rendu compte qu'il y a une catégorie de choses pour lesquelles ce que je viens de dire, c'est pratiquement systématiquement vrai. Ce sont les mèmes. Les mèmes, ce sont des petites choses postées la plupart du temps de façon très humble sur Internet et qui ont un succès que personne n'avait ne serait-ce qu'envisagé parce qu'il était inenvisageable. Des photos, par exemple, qui sont détournées à l'infini pour illustrer des propos qui n'ont rien à voir avec l'intention d'origine de leur auteur. Et donc, j'ai décidé dans ma chronique de vous parler de mèmes régulièrement, à raison d'un petit peu plus d'une fois par mois. Je vous ai déjà parlé du Nyan Cat, il y a quelques semaines, ce petit chat avec un corps en pop-tart qui vole dans le ciel sur une musique insupportable.
Enfin, moi, je l'ai mis en fond d'écran. Hein.
Voilà. Et bien, aujourd'hui, je vous parle donc d'un des premiers et plus célèbres mèmes de l'histoire, Charlie Beat Me, c'est une...
En fait, vous sélectionnez les sujets qui vous permettent d'étaler
son accent d'Oxford.
Charlie Beat Me, c'est une vidéo amateur de 56 secondes qui montre deux bébés britanniques, un bébé de 3 ans qui s'appelle Harry et son frère de 1 an qui s'appelle Charlie. Tous les deux assis dans un fauteuil. Dans la vidéo, Harry met son doigt dans la bouche de Charlie et Charlie le mord assez fort une première fois, puis une seconde fois, de plus en plus fort. Et donc Harry fait aïe, 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 et puis il enlève son doigt et il gronde son frère mollement avec un ton de réprimande enfantine adorable. Et Charlie, lui, il regarde la caméra et il rigole. Je vous ai apporté une photo de Harry et Charlie. Vous voyez, ils sont comme ça, c'est des petits bébés. Ah oui. Et je vous propose d'écouter un condensé de cette scène pour pouvoir vous faire une meilleure idée.
Ow! Ow, Charlie!
Voilà, il a son doigt dans
Charlie,
la bouche de Charlie.
That really hurt.
Voilà, et ça...
Charlie bit me.
Oh,
c'est très mignon, c'est encore 1000 fois plus mignon quand on voit les images.
Bah, c'est de la maltraitance enfantine.
Bah, c'est entre enfants, donc ça va.
Non,
quoi.
Ça relève pas du droit.
Intervenir.
Cette vidéo, je me souviens que je l'ai trouvée super tout de suite parce qu'il y a de la douleur, il y a des rires, il y a de la tendresse fraternelle, il y a un timing humoristique parfait aussi. Et je comprends donc un petit peu pourquoi elle a eu tant de succès. À l'heure où je vous parle, cette vidéo, elle a été vue presque un milliard de fois sur YouTube avec des dizaines de remakes par d'autres gens et même des parodies de cette vidéo avec Tom Hanks dedans. Vous voyez,
Tom Hanks, il se fait mordre ?
Non, c'est Tom, il joue un moine, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais
pas très bien le rapport.
C'est un moine
c'est une autre vidéo, quoi.
C'est une autre vidéo, mais elle s'appelle Charlie Beat Me et c'est l'histoire de deux frères qui se mordent et Tom Hanks essaye de les réconcilier. Voilà. Mais alors, d'où elle vient cette vidéo ? Eh bien, elle a été filmée par le père de Charlie et Harry qui s'appelle Howard Davis Carr, au printemps 2007. Et le but de Howard, c'était pas du tout de faire un hit sur YouTube, c'est juste de filmer une scénette sympa de la vie quotidienne, comme tous les papas qui filment leurs enfants. Il a voulu partager la vidéo avec le parrain des enfants qui habitait aux États-Unis, mais comme la vidéo était trop lourde, ce parrain lui a suggéré de la mettre sur YouTube, ce qu'il a fait le 22 mai 2007. Et là, ça a explosé immédiatement, comme ça arrive parfois sur YouTube. Et ça a changé en profondeur l'existence de la famille Davis Carr. Ils ont été interviewés par toutes les chaînes de télé du monde. Ils ont monétisé la vidéo. Ils ont vendu des t-shirts et des mugs Charlie Beat Me. Ils ont tourné des pubs pour des marques de sauce industrielle aux États-Unis. En 2017, le papa a estimé que la famille dans son ensemble s'était fait plus de 1 million d'euros de recettes grâce à cette vidéo de
gosses,
famille
hein.
Filmez vos gosses. Alors aujourd'hui, Harry et son frère Charlie, ils ont respectivement 17 et 15 ans et ils continuent à être interviewés à la télé, mais c'est devenu un petit peu ridicule, principalement à cause des journalistes qui leur posent systématiquement les mêmes questions auxquelles ils répondent de façon mécanique. Ça a changé votre vie? Bah oui, connard. Mais voilà. Et surtout, les journalistes leur demandent de rejouer la scène une fois, deux fois, trois fois, ce qui est totalement artificiel et ridicule.
Oui, surtout qu'ils ont 17 ans maintenant, les enfants.
Mais voilà, et c'est complètement ridicule. Et ça n'a pas un millième.
Charlie.
Mais voilà, mort moi, Charlie.
Ça prend une autre dimension tout de suite.
Ça n'a pas le millième du charme de la vidéo originale. Charlie Beat Me, la vidéo a eu une actualité cette année. Actualité qui est la même d'ailleurs que celle du Nyan Cat, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. La vidéo a été vendue comme NFT. Ces œuvres d'art numériques qui créent la rareté de façon artificielle. Et vous savez combien elle a été vendue?
Donc l'original.
L'original, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que c'est le fichier.
Oui, c'est
le fichier
original. Et surtout, voilà, c'est ça. Mais c'est la
je
même
dirais que ça a été vendu 20 000 dollars.
670 000 euros.
Mais non,
voilà.
C'est pas possible.
670
alors,
000 euros.
Qui a acheté ça, 670 000 euros?
Un inconnu, parce que je pense qu'ils ont peut-être un peu honte de l'avoir acheté comme ça. Mais c'est cet argent qui va permettre à Harry d'aller à l'université. Donc finalement, c'est peut-être une assez jolie histoire. Oui.
Bien, merci David. On vous retrouve les origines en podcast, évidemment, sur toutes les applis audio, Stéphane, et en vidéo sur YouTube.
Mais c'est à moi de le dire.
Bah c'est vrai. Et d'ailleurs, je vais vous dire, vous le dites mieux. Là, j'étais
merci,
un peu.
Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, justement, qui est votre principal fournisseur, Dailymotion, et sur le site Europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Olivier Pouls est avec nous, c'est évidemment notre expert gastronomique. Jamais de ma vie je ne l'ai vu manger de la betterave rouge.
Et pourtant, c'est que vous n'avez pas bien regardé, oui. Parce que j'en mange souvent.
Ben, jamais avec moi en tout cas, et heureusement quelque
non.
part. Vous nous parlez de ce produit, la betterave, d'où vient-elle?
Eh bien, avant de vous répondre à cette question, je vous pose une petite question moi-même. Savez-vous ce qu'est la bétalaïne?
C'est la substance qui donne le rouge de la betterave.
Et qu'on peut retrouver de temps en temps dans les urines. Et certaines personnes, effectivement, lorsqu'ils mangent de la betterave rouge, ont tendance à uriner un peu rouge. C'est pas grave.
Là, vous venez
c'est
de faire, juste... David que ouais. Je le fasse, vous venez de faire une danse de la victoire parce qu'il avait uriné rouge.
Parce que vous êtes fichu de moi quand j'ai dit que j'avais uriné
on
rouge.
Pour vous ayez des calculs urinaires.
Bah, oui, des choses voilà. Plus graves, on est rassuré.
Et bien voilà. Donc, il y a de la bétalaïne dans la betterave rouge, en l'occurrence. Alors, c'est vrai que le monde se divise en deux catégories. Hein, ceux qui ont été traumatisés par la betterave à l'école, et j'ai l'impression que...
Ah, moi, complètement.
Stéphane en fait partie. Moi, pas. Et l'autre catégorie, c'est les gens qui adore la betterave, qui l'ont redécouverte, et ça, c'est moi, et j'adore ça, et j'en mange extrêmement souvent. Les origines de la betterave sont probablement mésopotamiennes, mais ces légumes sont consommés un petit peu partout en Europe, dans la Grande Europe en tout cas, depuis l'Antiquité, essentiellement pour des raisons médicinales au départ. Alors on dirait qu'ils trouvaient déjà ça pas bon, donc ils le mangeaient uniquement pour les vertus, parce qu'il y a beaucoup de vertus dans la betterave. Et c'est un botaniste italien, connu sous le nom de Matthiol, qui va au XVe siècle s'intéresser aux différentes variétés de betteraves, les classifier. On y reviendra dans un instant sur ces différentes catégories. Le botaniste, célèbre botaniste français Olivier de Serres, en loue les mérites, car la betterave a plusieurs avantages. D'abord, elle pousse partout, et puis on peut en consommer les feuilles et les racines. Et d'ailleurs, le mot betterave vient de bête, puisque c'est un cousin de la bête dont on consomme les feuilles, et rave, qui sont les légumes qui poussent sous le sol.
Comme
et ce qui est intéressant, voilà, exactement, ce qui est intéressant avec la betterave, c'est que si vous l'achetez au marché, il ne faut jamais l'acheter pré-cuite en revanche, parce que souvent, c'est des betteraves qui ont traîné dans leur jus de cuisson et donc qui ont ce goût un peu terreux. Il vaut mieux les acheter fraîches avec leurs fans. Les fans, vous les coupez, vous les lavez et vous les utilisez comme des épinards. C'est délicieux. Petite tombée de fans de betterave dans un petit peu de beurre. Vous cassez un œuf et vous avez une entrée ou un plat. Franchement, c'est très bon. Et puis, les betteraves vont véritablement se populariser, on va dire, au 19e siècle, avec d'abord la betterave sucrière, essentiellement dans le nord de la France, sous Napoléon, pour permettre à la France de produire du sucre de manière autonome sans dépendre de ses colonies. Et puis, il y a toute une série d'autres betteraves qui sont ce qu'on appelle les betteraves fourragères, qui vont servir à nourrir les animaux. Et enfin, les betteraves potagères, qui sont nos betteraves, celles qu'on mange. La plus connue est la betterave rouge. Il y a une betterave rouge un peu allongée qui s'appelle la betterave crapaudine, qui pour moi est une des meilleures. Et puis il y a maintenant des variétés de betteraves rouges, blanches, jaunes, que vous pouvez trouver. Et une fois encore, je le redis, qui ont beaucoup d'intérêt gustatif. Il faut savoir que la betterave est une plante bisannuelle, et donc il y a deux récoltes par an. Alors, que faire avec votre betterave? Il y a plein de choses, mais là, la recette que je vous propose aujourd'hui, qui est assez simple, et vraiment, je vous ferai, Mathieu, je vous garantis que vous sortirez de là...
C'est pas la peine, je vous crois sur parole.
Non, je vais vous faire un betteravo tonato.
Oh là,
ah ouais. Oh, blague. Et donc, vous prenez deux betteraves, qui font à peu près 300-400 grammes, vous allez les cuire au four. La meilleure manière de cuire la betterave, c'est de l'emballer dans une feuille de papier aluminium, sans l'avoir épluché, rien, vous coupez juste les feuilles, vous l'emballez dans une feuille de papier aluminium, four à 180 degrés pendant environ 40-45 minutes. Vous la laissez refroidir tranquillement, vous ouvrez le papier d'aluminium et vous l'épluchez à ce moment-là. Franchement, la peau vient toute seule. Vous avez là une betterave qui est concentrée, qui n'a aucun goût terreux, je vous le garantis. Vous la taillez assez finement et dessus, vous préparez une sauce, la sauce du vitello tonato, c'est-à-dire une mayonnaise montée avec du thon, un petit peu d'anchois et des câpres. Vous mélangez tout ça et vous venez étaler votre sauce tonato sur la betterave qui remplace en fait la viande, qui remplace le veau. Je vous jure que c'est quelque chose d'extraordinaire et je me fais fort de vous le préparer bientôt.
Pourquoi remplacer le veau? Vous êtes devenu végétarien?
Non, mais c'est une façon différente. Alors, c'est pas végétarien parce qu'il y a du thon quand même dans le.
C'est
sauce
végétarien, c'est pas végan.
Non, mais ça fait un terre-mère qui marche extraordinairement bien.
Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes, même celles à base de betterave, sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, vous aussi maintenant, vous allez voir rouge. On va jouer avec l'histoire. Vous êtes prêts à vous affronter? C'est la lutte finale.
Historiquement vôtre.
Bon, vous connaissez le principe, une question pour chacun, et puis s'il y a besoin de vous départager, il y a un chiffre à donner, et c'est celui qui se rapproche le plus près de la bonne réponse qui gagne. Alors, je commence par vous, Olivier. Ramsès II était roux. C'est vrai ou c'est faux?
Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ça paraît improbable. Alors, c'est que c'est vrai. Voilà, je dis que c'est vrai.
Eh oui, on a retrouvé les cheveux de la momie de Ramsès II. Et il faut avouer qu'étant mort à plus de 90 ans, c'était sûrement une teinture. Mais enfin bon, vous auriez dit faux.
Ah, c'est une teinture, mais ça ne compte pas alors.
Si, ça compte.
David Castillo-Lopez. Les Badim existent sous cette appellation depuis 1964. Dim, ça vient de dimanche. C'est vrai ou c'est faux?
Putain, j'en sais rien. Je dirais que non.
Il fallait réfléchir parce que...
Non,
voyez-vous,
parce qu'on ne veut pas.
Parce qu'en 1958, la marque c'était les bas dimanches. Parce qu'on s'endimanchait.
Oui,
les dimanches, on mettait des bas.
Non, mais
pour sortir.
J'avais
vous ne mettiez pas des bas, vous, pour le dimanche.
J'en mets plus.
Mathieu. Maurice François Garin était un cycliste italien, puis il a été naturalisé français. C'est le premier vainqueur du premier Tour de France. Mais du coup... Au moment de sa victoire, il était français ou italien?
Même Gérard Rolls ne connaît pas la réponse à cette question. Vous vous rendez compte? Non, je pense qu'il était italien à l'époque, parce que sinon...
Et il l'a remporté, le Tour, en 1903.
Parce que je réfléchis au fait qu'on le citerait comme le premier vainqueur français du Tour de France, ce qui ne me semble pas être le cas, donc je pense qu'il était peut-être italien.
Vous pensez qu'il est italien?
Oh, je suis trompé.
Il était français, il a été naturalisé 2 ans plus tôt, en 1901.
Ouais, voilà,
et c'est une victoire.
C'est une victoire. C'est le Eddy Merckx. Le Eddy Merckx du quiz.
Bravo.
Il est temps, hélas, mille fois hélas, de refermer ce numéro d'Historiquement Vôtre. Il était consacré aux femmes qui voyaient rouge. Stéphane, laquelle vous a le plus touché? Rosa Luxembourg, Théroigne de Méricourt?
Moi, j'aime beaucoup Théroigne de Méricourt.
Oui, plus que Corinne Maziero, visiblement. Demain, Stéphane,
non, c'est pas ça,
notre thème...
Elle est très sympathique, par ailleurs.
Par ailleurs, tout est dans le par ailleurs. Notre thème, de demain a été inspiré par un classique du cinéma français.
Oh, attention chérie, ça va couper.
Eh oui.
Oui Mathieu, demain, ça va couper chérie. Enfin, je veux dire, on réunit trois hommes dont les épouses ont raccourci leur vie. Ouais. L'homme d'affaires et homme de mode Maurizio Gucci, que sa femme a fait éliminer. L'empereur Claude, empoisonné à l'instigation d'Agrippine, sa bien-aimée.
Et Edward Stern, le richissime Oula. Banquier, tué par sa maîtresse. Bref, un formidable programme. À demain Stéphane, à demain les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.